Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Que se passe-t-il quand un groupe de hackers décide que s'introduire dans un réseau informatique ou même voler des données, ce n'est plus du tout suffisant?
C'est une excellente question et la réponse fait un peu froid dans le dos.
Ouais, parce que se passe-t-il quand la cible principale n'est plus un serveur en métal froid, mais vraiment l'esprit, la peur et la psychologie d'une nation tout entière? C'est notre sujet du jour et franchement, ça bouscule complètement ce qu'on croyait savoir sur la cybersécurité.
Tout à fait. C'est un vrai changement de paradigme.
Mais avant de plonger, cette exploration en profondeur est présentée par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyber Défense. L'approche du Cyber Intelligence Bureau combine les recherches OSINT et HUIMT, telles que les diagnostics des réflexions cyber, incluant des analyses de compréhension contextuelle, informationnelle, émotionnelle, cognitive et géopolitique des influences des cybermenaces.
Et il faut quand même préciser une chose très importante sur la méthode avant d'aller plus loin.
Oui, bien sûr.
Pour comprendre ce paysage super complexe, il est crucial de savoir d'où viennent les données. Toutes les informations que nous allons décortiquer aujourd'hui sont le résultat exclusif d'enquêtes OSINT.
Donc le renseignement d'origine source ouverte?
Exactement. Ce sont des sources d'origine purement cyber, qui ont été rigoureusement corrélées, validées et qualifiées de confiance. Notre analyse se place d'un point de vue strictement cyber.
D'accord.
Enfin, un point fondamental, l'ensemble de ce rapport respecte scrupuleusement le principe de neutralité politique. Il n'y a ici aucune prise de parti pour un acteur, qu'il soit de gauche, de droite ou sur l'échiquier géopolitique global. Notre seul et unique but, c'est de comprendre la mécanique interne de la menace.
Le décor est planté. Et la menace en question, elle a émergé de façon super structurée. Les documents montrent qu'après quelques opérations de chauffe fin 2025...
Notamment la fameuse opération Epic Fury, ouais.
Voilà, Epic Fury, eh bien, une véritable hydre s'est officiellement cristallisée le 28 février 2026. On parle du collectif APT Iran. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce groupe agit comme un vrai chef d'orchestre sous l'ombrelle de la Cyber Islamic Resistance.
C'est vraiment un hub central, en fait.
C'est ça. Ce hub coordonne des escouades ultra spécifiques, genre la Indala Hack Team, les Cyber Avengers ou encore APT-35 et Muddy Water. C'est une véritable armée hybride. Mais ce qui saute aux yeux dans les notes, c'est que pour manipuler les foules, ils ne commencent pas par envoyer des messages sur les réseaux sociaux.
Non, pas du tout.
Ils commencent par frapper le monde physique.
Et c'est la base indispensable de leur crédibilité, en fait. La manipulation psychologique, ça ne fonctionne pas dans le vide. Elle a besoin de s'appuyer sur une peur tangible, ancrée dans la réalité quotidienne des gens. Et c'est pour ça qu'APT Iran cible d'abord de plein fouet les infrastructures critiques.
Les fameux systèmes OT.
Ouais. Plus précisément, ils visent les systèmes de contrôle industriel, donc ce qu'on appelle l'OT ou les systèmes SCADA.
D'accord, décortiquons un peu tout ça. Quand on parle d'OT ou de SCADA, on ne parle pas du serveur qui gère les emails ou la comptabilité d'une entreprise, on est d'accord, non?
Ah non, pas du tout.
On parle des ordinateurs qui ouvrent physiquement d'immenses vannes d'eau dans une usine ou qui contrôlent la température d'un haut fourneau. C'est le monde physique connecté, c'est bien ça.
C'est tout à fait ça. Et c'est là que le choix de leur cible devient franchement terrifiant. Si tu regardes les secteurs visés, on trouve la distribution agroalimentaire en première ligne.
Ah ouais?
Avec une focalisation extrêmement spécifique sur les silos à grains stratégiques. On trouve aussi l'énergie, ce qui inclut les centrales électriques classiques, mais aussi les immenses parcs solaires photovoltaïques.
D'accord.
Et les infrastructures d'hydrocarbures. Et puis, ils s'attaquent également au secteur de la défense, de la santé et des télécommunications.
Mais des silos à grains? Pourquoi se concentrer sur des éléments aussi lourds et physiques plutôt que de se contenter du vol de données financières classiques? Enfin, je veux dire, ça a toujours été le nerf de la guerre pour les pirates, non?
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'objectif principal, ce n'est pas du tout le gain financier. Ce qu'ils cherchent, c'est l'impact symbolique destructeur.
Ah, la symbolique?
Voilà. S'attaquer à un silo à grains, c'est menacer directement la sécurité alimentaire d'une nation. Si les capteurs de température ou d'humidité d'un silo de plusieurs milliers de tonnes sont trafiqués...
Toute la récolte est perdue.
Exactement. Elle peut pourrir en quelques jours. Et ça réveille une anxiété primordiale chez le citoyen. La peur de manquer de nourriture ou d'électricité frappe beaucoup plus fort que la peur de voir son numéro de carte de crédit piraté.
Ouais, l'impact psychologique est énorme. Mais techniquement, comment ils font pour pénétrer des systèmes aussi sensibles? J'imagine qu'ils développent des virus ultra complexes qui nécessitent des années de programmation, le truc digne de films d'espionnage, quoi.
Eh bien, curieusement, non. Et c'est là toute l'ironie de leur méthode. Plutôt que de perdre des mois à créer des malwares personnalisés de très haut niveau, ils font dans l'opportunisme redoutable.
C'est-à-dire ?
Ils exploitent de vieilles vulnérabilités logicielles, des failles connues qui n'ont simplement jamais été corrigées par les exploitants des usines. Mais, mieux encore, ils détournent des outils administratifs parfaitement légitimes.
Ah, ils utilisent les outils déjà en place ?
Ouais. Le dossier met particulièrement en lumière l'abus des plateformes MDM. Ce sont les logiciels de gestion des appareils mobiles, utilisés par les entreprises pour administrer les téléphones portables ou les tablettes de leurs employés.
D'accord.
Et ils infiltrent ce canal légitime pour s'introduire, tout en douceur, dans les réseaux industriels.
C'est fou. C'est comme si un cambrioleur n'essayait même pas de crocheter la serrure blindée de la porte d'entrée, mais utilisait tranquillement le système de domotique de la maison pour enfermer les propriétaires à l'intérieur.
C'est une excellente métaphore.
Tout en éteignant les lumières et en coupant le chauffage, quoi. C'est de l'intrusion par la petite porte administrative.
C'est ça. Et une fois à l'intérieur de la maison, leur tactique repose sur une dynamique très particulière. La revendication immédiate sans vérification. Dès qu'ils ont accès à un panneau de contrôle industriel, même si leur capacité d'action réelle est minime, ils ne perdent pas une seconde. Ils font des captures d'écran et les publient massivement sur leurs canaux Telegram. L'idée, c'est d'amplifier l'incertitude dans l'espace public.
Je ne suis pas sûr de saisir l'intérêt stratégique. Pourquoi s'empresser de revendiquer une attaque si on n'a rien cassé d'important au final ?
Parce que le public, la presse et parfois même les ingénieurs qui opèrent ces infrastructures, ils sont soudainement plongés dans le doute.
Ah, la paranoïa s'installe.
Exactement. Ils voient l'intérieur de leur système exposé sur les réseaux sociaux. Ils ne savent plus si la machine est encore sous contrôle. Parfois, par simple précaution, les ingénieurs vont eux-mêmes arrêter les turbines ou les systèmes de distribution.
Donc l'attaque crée un tel chaos informationnel que la cible s'inflige elle-même la paralysie.
Voilà, c'est redoutable.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, si je suis bien la logique, attaquer physiquement un réseau électrique ou un silo à grains n'est finalement que le vecteur d'une attaque bien plus profonde.
Tout à fait.
La véritable cible, le véritable piratage, il se passe dans le cerveau humain.
Et c'est le cœur absolu de la doctrine d'APT Iran. Les infrastructures physiques ne sont que la scène de théâtre, en fait. Ils utilisent l'intelligence émotionnelle et les vulnérabilités cognitives comme de véritables armes de destruction massive.
Carrément.
Leurs opérations intègrent des concepts très précis issus de la psychologie comportementale. Prenons par exemple ce que les chercheurs appellent la théorie de la quête de sens.
Et qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain de la cyberguerre? Comment une quête de sens se transforme-t-elle en piratage?
Cette théorie explique que chaque être humain ressent un besoin viscéral de reconnaissance existentielle, d'avoir un but héroïque. Et les recruteurs d'APT Iran ciblent des profils spécifiques, souvent de jeunes technophiles ou des sympathisants isolés.
D'accord.
Au lieu de leur proposer une simple activité criminelle, on leur offre un grand récit. Le groupe cadre l'action comme une résistance idéologique sacrée. Du coup, le jeune derrière son clavier ne commet pas un délit, il devient un justicier. C'est un moteur de recrutement bien plus puissant que l'argent.
On dirait vraiment les algorithmes de recommandation qu'utilisent les réseaux sociaux pour nous rendre accros, mais militarisés pour recruter et fanatiser des cybersaboteurs.
C'est ça.
Mais comment font-ils face à la barrière morale ? C'est une chose d'avoir un sentiment de puissance devant son écran, c'en est une autre de paralyser des hôpitaux ou des centrales d'eau potable. Les individus ne peuvent pas effacer leur propre conscience éthique si facilement, si.
Pour contourner ça, ils emploient le concept de désengagement moral, couplé à une manipulation habile de l'aversion à la perte. Ça passe par une ingénierie sémantique implacable.
Le choix des mots.
Ouais. Dans leur communication, une attaque destructrice sur une cible civile n'est jamais appelée une attaque. C'est systématiquement requalifié de justice défensive ou de représailles inévitables. Même pour des opérations d'extorsion financière basique, le mot « rançon » est banni. Il parle de taxe de résistance.
Attends, j'ai envie de repousser un peu cette idée. Modifier le vocabulaire « d'accord », c'est classique en propagande, mais est-ce que ça marche vraiment à ce point ? Les pirates, tout comme les victimes, ne sont pas dupes. Changer rançon en taxe de résistance, ça ne masque pas la réalité brutale de l'extorsion.
Alors, si on soumettait cette rhétorique à une personne isolée et neutre, effectivement, ça ne marcherait pas. Mais APT Iran ne travaille pas dans le vide. Ils construisent des environnements numériques hermétiques, presque exclusivement sur Telegram.
Les fameuses bulles.
Exactement. Et c'est là qu'interviennent le biais de confirmation. L'architecture de ces canaux filtre méthodiquement toute information ou opinion contradictoire.
D'accord.
Lorsqu'un individu baigne jour et nuit dans un écosystème qui valide et célèbre cette requalification morale, son cerveau finit par ajuster sa propre boussole éthique. C'est une boucle fermée. La culpabilité s'évapore parce que le groupe entier applaudit l'action.
C'est un véritable conditionnement de masse en ligne. D'ailleurs, les rapports évoquent aussi un phénomène appelé l'erreur de prédiction des récompenses. C'est un terme qu'on entend souvent en neurobiologie pour expliquer l'addiction, non ? Le même mécanisme qui maintient les joueurs accoudés aux machines à sous.
C'est exactement le même principe neurologique. Le cerveau humain relâche une dose massive de dopamine, non pas quand il obtient une récompense de manière prévisible, mais quand l'obtention de cette récompense est incertaine et soudaine.
Ah, la surprise !
Et APT Hurant a parfaitement intégré cette mécanique. Il gamifie les cyberattaques.
Il transforme la cyberguerre en jeu vidéo.
En quelque sorte, oui. Dans leur bulle Telegram, les réussites sont inattendues. Un pirate lance une attaque. Mais il ne sait jamais à l'avance si ça va aboutir, ni si ça fera la une de la presse internationale le lendemain.
Ni s'il sera glorifié par le groupe.
Voilà. En créant ce sentiment de loterie, cette incertitude du succès, ils génèrent des boucles d'engagement addictives chez leurs recrues. L'acte de pirater devient une impulsion irrésistible.
Je commence à voir comment ils contrôlent et motivent leurs propres troupes avec une précision clinique. Mais passons du côté des cibles, des victimes.
Oui.
Mais comment de simples captures d'écran sur Telegram peuvent-elles réellement générer un sentiment d'impuissance et de terreur chez des nations entières ? Face à eux, il y a quand même des États dotés de budgets colossaux et d'agences de cybersécurité ultra sophistiquées.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est parce qu'ils appliquent ce que l'analyse définit comme une empathie stratégique redoutable.
C'est-à-dire ?
Ils savent exactement comment transformer une frustration individuelle locale en une colère collective, puis en peur. Ils ne se contentent pas de pirater la machine, ils pratiquent le doxing agressif, donc la divulgation de données personnelles.
Oui.
Imaginons qu'une infrastructure énergétique soit attaquée. Le groupe ne va pas seulement revendiquer l'arrêt du courant, ils vont diffuser publiquement les noms, les adresses personnelles et les informations familiales des employés et ingénieurs qui travaillent dans cette centrale.
Ah ouais.
Le message n'est donc plus « nous avons craqué votre système de sécurité », mais plutôt « nous savons où vous habitez ».
C'est toute la différence.
Ils intimident physiquement et psychologiquement les cibles. Ils instaurent un climat de paranoïa.
C'est vicieux.
Les données soulignent qu'ils utilisent même la peur de l'espionnage étranger pour décourager les victimes d'utiliser des canaux de communication de secours comme les systèmes satellites Starlink.
Ah, ils bloquent même les plans B.
En liant sans cesse la menace technique à une vulnérabilité humaine et civile, ils construisent une illusion de surpuissance totale. L'État attaqué a beau avoir les meilleurs pare-feux du monde, sa population et ses techniciens se sentent traqués dans l'espace public.
C'est terrifiant. Mais du coup, si leur but est de créer un sentiment de vulnérabilité et d'éroder la confiance des citoyens, ils ne vont pas s'attaquer indéfiniment à des zones déjà instables. Ils vont cibler des pays où le public a historiquement une confiance forte en ses institutions.
Exactement.
Ce qui m'amène à regarder la carte des prochaines cibles projetées par les chercheurs. Sachant que ce collectif maîtrise à la fois l'attaque industrielle et la manipulation neuronale, vers où cette machinerie se tourne-t-elle ?
Les hypothèses issues des données de renseignement en source ouverte sont très claires sur les trajectoires futures. Le scénario le plus probable confirme un maintien et même une intensification de la pression sur les pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que sur Israël, la Jordanie et les États-Unis.
Ce qui est classique pour eux.
Ouais, ce sont des théâtres d'opérations classiques. Mais l'évolution la plus marquante, pointée par les projections, c'est l'extension délibérée de cette menace vers l'Europe, ciblant spécifiquement l'Union européenne et des pays limitrophes.
L'Europe en lune de mire. Et comment s'y prendrait-il pour frapper le continent européen ? Enfin, on imagine mal des actes de sabotage explosifs réguliers sur le réseau électrique de l'Union sans provoquer un conflit ouvert massif.
Sur le sol européen, l'approche envisagée par les modèles n'est pas forcément la destruction immédiate et totale. L'objectif, c'est de générer une friction économique graduelle, insidieuse, presque invisible au début. L'analyse anticipe une recrudescence massive de l'abus d'outils administratifs d'entreprise, comme les MDM dont on parlait tout à l'heure, combinée à des campagnes de hack and leak.
Ce qu'on traduit par le piratage suivi d'une fuite massive de données stratégiques avec l'humiliation publique qui accompagne.
Exactement. Le but est d'éroder à petit feu, mois après mois, la confiance du grand public européen envers la résilience de ses gouvernements, de ses banques, de ses hôpitaux et de ses chaînes logistiques. C'est une guerre d'usure psychologique à bas bruit.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si l'on passe d'une simple intrusion dans un logiciel de téléphonie à la perturbation concrète d'une chaîne d'approvisionnement en blé, couplée à l'intimidation publique des ingénieurs, est-ce que cela signifie que la frontière historique qui séparait le cyberespace virtuel du conflit physique a totalement disparu ?
Cela soulève une question importante, et c'est d'ailleurs l'une des conclusions majeures de ce dossier. La réponse est oui. Ce brouillage continuel entre le domaine informatique et le domaine physique n'est absolument pas un hasard.
C'est voulu.
C'est l'objectif systémique même de leurs opérations. Tout converge vers ce point de rupture. Et cela nous mène directement à ce que le rapport identifie noir sur blanc comme le scénario le plus dangereux.
Si je reprends ma métaphore des dominos, ce scénario du pire, ce n'est plus juste faire tomber la première ligne de pièces pour effrayer la galerie. C'est l'intention de renverser la table tout entière. Les documents l'appellent le blackout des infrastructures critiques.
Ouais, c'est ça.
Comment un tel scénario catastrophe se déploierait-il dans la réalité ?
Il faut l'imaginer comme une opération de paralysie massive, synchronisée à la minute près. Une attaque qui combinerait de multiples vecteurs simultanés, le piratage en profondeur des réseaux de distribution électrique, l'arrêt forcé des stations de pompage de l'eau et le blocage administratif des silos à grains stratégiques.
Et tout ça en même temps ?
Et pour s'assurer que la panique soit totale, tout cela serait soutenu par une campagne de désinformation foudroyante sur les réseaux sociaux.
Une défaillance en cascade. Si l'on coupe le courant à grande échelle, l'eau potable ne circule plus dans les canalisations, les hôpitaux tournent sur générateur pendant quelques heures avant de s'effondrer, et la chaîne du froid dans l'agroalimentaire est détruite.
Et la panique s'installe en un éclair.
Ouais, totalement.
Le but est de créer un goulet d'étranglement fatal sur une fenêtre de temps très réduite, afin de maximiser la perturbation physique avant que les autorités ne puissent réagir. Et l'élément qui rend cette hypothèse réaliste aujourd'hui, c'est que les modèles anticipent l'utilisation de l'intelligence artificielle par ces groupes.
L'IA pour accélérer le tout.
L'IA permettrait d'automatiser l'identification des failles et le déploiement des piratages à une vitesse et une échelle inconcevables pour des opérateurs humains.
Et la composante psychologique dans tout ça, il ne compterait pas que sur l'IA, j'imagine.
C'est la touche finale et peut-être la plus pernicieuse du scénario. Le recrutement de complices internes facilité par toutes les techniques de manipulation mentale évoquées plus tôt.
Ah, les taupes !
L'endoctrinement de certains employés à l'intérieur même des infrastructures vitales pour garantir un accès privilégié au système industriel en contournant la sécurité périphérique. Les conséquences d'un tel blackout, dans le pire des cas, iraient bien au-delà des écrans noirs.
On parle de pénurie alimentaire rapide, quoi.
Pénurie. Et inévitablement, des troubles sociaux massifs. La population perdrait instantanément toute croyance en la capacité de protection de ses propres institutions. C'est l'effondrement par la perte de confiance.
C'est un horizon qui donne le vertige, c'est indéniable. Si l'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, le parcours que nous venons de faire est riche en enseignements. Nous avons exploré comment un collectif structuré en février 2026, baptisé APT Iran, a réussi à transformer la simple peur numérique en une authentique arme de destruction physique et économique.
En s'appuyant rigoureusement sur ces enquêtes en source ouverte, il apparaît clair que la technique de pointe cède le pas à la psychologie de pointe. Il délaisse les outils cyber ultra complexes pour exploiter ce qui marche, à savoir les failles négligées et les logiciels administratifs légitimes de nos usines.
Et surtout, l'aspect le plus fascinant et troublant, c'est qu'ils instrumentalisent les neurosciences cognitives, que ce soit en exploitant la quête de sens pour recruter, l'aversion à la perte pour masquer la criminalité, ou l'erreur de prédiction des récompenses pour rendre la cyberguerre aussi addictive qu'un jeu d'argent.
Exactement. Le but n'est plus la donnée informatique, mais la paralysie morale de nations entières. Le cyberespace a radicalement muté.
Ouais.
L'infrastructure technique est reléguée au rang du simple moyen de transport. La véritable ligne de front, la véritable destination de toutes ces opérations de piratage, c'est l'esprit humain et les failles de nos perceptions émotionnelles.
Ce qui amène une réflexion finale vertigineuse, une idée à garder en tête bien après la fin de cette session. L'industrie mondiale de la cybersécurité passe son temps et dépense des milliards à chercher la vulnérabilité ultime dans les codes informatiques, ce qu'on appelle les failles 0D, pour pouvoir développer et imposer des correctifs. Mais si les biais cognitifs fondamentaux de l'être humain, comme notre besoin désespéré de validation ou notre panique viscérale face à l'incertitude, constituent en réalité la vulnérabilité ultime.
Une faille qu'aucun patch ne peut corriger.
Voilà. Une faille que strictement aucune mise à jour logicielle, aucun pare-feu au monde ne pourra jamais corriger. Alors, comment la société tout entière pourra-t-elle maintenir son équilibre demain, lorsque la moindre notification sur un écran risquerait d'être un déclencheur émotionnel, transformé en arme par des adversaires invisibles ou non ? Il est essentiel de continuer à interroger sans relâche la mécanique des informations qui nous entourent. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des rouages de la menace hybride et à très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.
Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.